Tur Jesus Christus.
Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou continue de provoquer de nombreuses réactions. En Europe notamment, elles sont contrastées, on le verra. La Hongrie de Viktor Orban, qui occupe la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UE, lance lui une invitation à son homologue israélien à Budapest. Les menaces russes de tirer de nouveaux missiles intercontinentaux provoquent la crainte de ses voisins alliés de l'Ukraine. C'est le cas dans les pays baltes, mais également en Pologne. Reportage ce soir dans les rues de Varsovie. Dans ce journal également, nous irons en Bolivie, où un sanctuaire de biodiversité menacé par des projets miniers. Et puis en Guyane française, qui connaît la pire sécheresse de son histoire, conséquence du phénomène El Niño. Une bénévole du Secours catholique nous parlera des conséquences pour les populations locales.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, les réactions sont encore nombreuses dans le monde au lendemain de l'émission d'un mandat d'arrêt visant Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense par la Cour pénale internationale. En Europe, dont tous les pays ont signé le statut de Rome reconnaissant la CPI, c'est le Premier ministre Viktor Orban qui a été le plus virulent pour condamner la décision des juges de La Haye au risque de provoquer des tensions au sein de l'Union. Budapest assure la présidente tournante du Conseil européen de l'Union européenne et Viktor Orban a lancé une invitation à son homologue israélien. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazé.
Viktor Orban, habitué des provocations, invite son homologue israélien. Il lui promet qu'il ne sera pas arrêté. Selon lui, l'émission du mandat d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou jette le discrédit sur le droit international. Il est suivi par son homologue tchèque, Petr Fiala, qui qualifie le mandat d'épouvantable et totalement inacceptable, alors que le ministre autrichien des Affaires étrangères le qualifie d'absurde et incompréhensible. À l'inverse, la Commission européenne, le chef de la diplomatie de l'UE, l'Irlande, l'Italie ou l'Espagne affirment haut et fort la primauté du droit international et la nécessité de respecter les décisions de la CPI. L'Allemagne se dit liée aux décisions de la Cour, même si, comme partenaire historique d'Israël, elle affirme que c'est pour l'instant très théorique. Divisions internes aussi aux Pays-Bas, où le ministre des Affaires étrangères envisage l'application du mandat, alors que Geert Wilders, chef du plus important parti de la coalition gouvernementale, annonce sa visite en Israël. Pour les Européens, le problème est double. Il y a d'une part leur incapacité traditionnelle à s'entendre sur une position commune vis-à-vis d'Israël, et le refus des 27 de prendre des décisions de politique étrangère à la majorité, en abandonnant ainsi leur souveraineté. Il y a aussi un problème de fond, la remise en question du règne du droit qui fonde pourtant l'Union européenne et dont la contestation est devenue une spécialité de Viktor Orban. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Et les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 discuteront lundi et mardi prochain de ces mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale lors d'un sommet organisé en Italie. Le Saint-Siège, par la bouche de son secrétaire d'État, Pietro Parolin, lui, ne se prononce pas sur le bien fondé de ces mandats. Ce qui nous préoccupe, c'est que la guerre prenne fin rapidement, a-t-il confié ce vendredi à des journalistes. Au-delà des polémiques sur le droit international et les questions juridiques posées par la Cour à La Haye, reste la réalité du terrain dans la bande de Gaza. La situation humanitaire reste catastrophique. Tous les hôpitaux vont réduire ou cesser leurs activités d'ici 48 heures s'ils ne sont pas approvisionnés en carburant, a alerté aujourd'hui le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. C'est un triste record recensé par l'ONU aujourd'hui. 281 travailleurs humanitaires sont morts en 2024. Beaucoup d'entre eux ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'ils fournissaient de l'aide humanitaire. C'est le cas en particulier à Gaza. Mais des humanitaires ont également payé de leur vie dans des pays comme la RDC, le Soudan, l'Ukraine ou encore le Yémen. L'OTAN et l'Ukraine annoncent une réunion commune mardi prochain pour évoquer notamment le tir de missiles intercontinental russe hier sur la ville de Dnipro. À l'instant même, Vladimir Poutine annonce vouloir produire en série ces fameux missiles Oreshnik, un missile sans charge atomique mais qui est une première depuis le début de la guerre. Le missile est tombé à environ 1000 km de son pas de tir. De nombreux pays alliés de Kiev ont dénoncé ce tir. Pour revendiquer l'utilisation de ce missile hypersonique, Vladimir Poutine a prononcé hier une allocution télévisée. Le président russe a souligné que la guerre en Ukraine avait désormais, je cite, un caractère mondial. Il n'exclut pas non plus de frapper des pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine en Russie. Des mots qui ne sont pas passés inaperçus dans les pays baltes, mais aussi en Pologne, voisin et allié de l'Ukraine et proche du front de la guerre. Des menaces prises très au sérieux par certains habitants qui craignent d'être les prochaines cibles de Moscou. Adrien Sarla les a rencontrés dans les rues de Varsovie.
Non, moi, il y a de quoi avoir peur avec ce qu'il dit et avec ce qu'il fait surtout.
Sur les trottoirs enneigés de Varsovie, Dorota laisse échapper ses craintes face au parfum d'escalade distillé par Vladimir Poutine.
Il va vouloir aller plus loin, jusqu'en Europe. Et malheureusement, ce qu'il fait ressemble très près à ce que faisait Hitler. Le pire, c'est qu'il est soutenu par l'Asie et ça, c'est inquiétant.
Depuis 2 ans, elle et ses compatriotes polonais redoutent une défaite ukrainienne, conscients qu'ils pourraient être les prochaines victimes de l'impérialisme russe. Pour Bojena, 77 ans, la menace nucléaire aujourd'hui brandie par Poutine évoque des temps que la grand-mère pensait révolus.
Ça me rappelle les années 70, pendant la guerre froide. J'étais encore une petite fille et je me disais « Oh mon Dieu, à tout moment la guerre va exploser ». La situation était la même et toujours à cause du même pays.
Au printemps dernier, Varsovie a lancé un programme d'investissement pour assurer la sécurité des habitants en cas d'attaque aérienne sur la capitale, de quoi rassurer la septuagénaire.
C'est une bonne chose que la mairie se soit occupée de tout ça. Nous, les Polonais, on aime la paix, mais visiblement, on ne peut jamais être tranquille avec un tel voisin.
Mais elle l'assure avec conviction, même si la Russie attaquait la Pologne, hors de question pour elle d'abandonner son pays. Adrien Sarlat, Varsovie, Radio Vatican.
La COP29 de Bakou touche bientôt à sa fin et l'optimisme n'est guère de mise dans les couloirs concernant la signature d'un nouvel accord ambitieux contre les dérèglements climatiques. Selon le projet de texte final, la contribution des pays les plus riches de la planète serait de 250 milliards de dollars par an pour l'action climatique dans les pays en développement. Un chiffre très en deçà pour de nombreux pays pauvres et ONG. L'Alliance des petits États insulaires dénonce ce soir un mépris pour leurs peuples vulnérables. Et alors que la fin des énergies fossiles est au cœur des discussions à Bakou, direction le sud de la Bolivie ce soir, où la réserve naturelle de Tariquia, sanctuaire de biodiversité, est menacée par des projets extractivistes soutenus par le gouvernement. Sur place, des habitants résistent depuis plusieurs années, faisant de Tariquia un symbole des défis environnementaux dans la région. Le reportage sur place de Camille Bouju.
Une grande tente bleue trône à l'intersection de deux chemins. C'est ici, dans la réserve de Tariquia, que les habitants de Chiquiaca ont installé leur point de vigilance pour empêcher l'entrée dans la réserve. Pour Andrés Miranda, ce lieu est important. Depuis plus de 5 ans, ce défenseur lutte pour protéger Tariquia des ambitions extractivistes de l'État bolivien en recherche d'énergie fossile.
Ils veulent forer dans une zone élevée, qui est une zone à la source de l'eau. Il y a beaucoup d'eau qui descend jusqu'en bas où se trouvent de nombreuses communautés qui seront affectées par l'eau contaminée.
Mi-octobre, un référendum dans la communauté devait décider si le forage serait autorisé ou non. Mais les compagnies pétrolières n'ont pas attendu. Elles sont entrées de force dans la réserve, brisant la chaîne humaine formée par les défenseurs. Silvana Maria était présente ce jour-là.
L'objectif était de les empêcher de passer, mais de façon non violente. Finalement, ils ont réussi parce qu'ils sont venus avec une énorme force policière.
Ce soir-là, se tient une réunion pour relancer la lutte, car 31 membres du comité de défense de Tariquia sont poursuivis en justice pour avoir tenté de bloquer les compagnies. C'est le cas de Juana Mercado.
En réalité, nous sommes poursuivis pour avoir défendu l'eau, la vie. Malheureusement, le gouvernement et les entreprises veulent nous humilier, ils veulent nous faire taire avec des procès. Nous allons continuer.
Les militants risquent 3 ans de prison, mais d'ici au jugement, ils espèrent que les autorités se mobiliseront pour éviter la catastrophe écologique que cette exploitation pourrait engendrer. Chiquia Norte, Camille Bouju pour Radio Vatican.
Partons enfin en Guyane française qui vit en ce moment une sécheresse exceptionnelle. Alors que le transport des personnes et des denrées des communes de l'intérieur s'effectuent essentiellement en pirogue. Certains fleuves sont à sec. Pauline Bindard est bénévole au Secours catholique à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle revient sur l'impact de cette sécheresse sur les populations locales.
Les populations sur le Maroni, le long du Maroni, utilisent la pirogue. C'est leur autoroute. Compte tenu de la sécheresse, les pirogues ne peuvent plus circuler. Donc, les approvisionnements ne se font pas. Ce qui fait que les populations se trouvent démunies. Les stations de captage se trouvent sur le Maroni. Mais compte tenu du faible niveau, ça a un impact sur la distribution de l'eau dans les communes et même dans les quartiers à Saint-Laurent. Hein, parce que Saint-Laurent, c'est entre guillemets, la capitale de l'Ouest. C'est une commune qui compte officiellement 50 000 habitants, mais compte tenu de l'afflux massif de population étrangère, si on peut dire, beaucoup de quartiers informels se développent autour de la ville et on retrouve des personnes qui proviennent des communes du fleuve et aussi des personnes qui viennent de pays étrangers, notamment de Haïti, du Suriname, du Brésil, de la République dominicaine. Et ces personnes habitent dans des quartiers informels qui ne bénéficient pas de l'accès à l'eau potable.
Des propos recueillis par Augustine Asta. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Demain soir à 18h, c'est notre émission hebdomadaire Vox Mundi que vous retrouverez. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end.